إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours numéro 26 aujourd'hui dans l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim. Et on a terminé au dernier cours l'explication du verset, ou bien des versets dans Surat al-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala décrit la différence entre les munafiqin et les mu'minin. Et c'est les versets 67 à 73 dans Surat At-Tawbah. Donc, dans ces versets-là, il y a la description des munafiqin et leurs caractéristiques et qu'est-ce qui leur arrive par la suite, comment Allah va les traiter dans l'au-delà, et la même chose par rapport aux croyants, la description des mu'minin et qu'est-ce qui leur arrive et comment ils sont et qu'est-ce qui leur arrive dans l'au-delà par la suite. On a mentionné ces exemples-là et le cheikh il a cité ces exemples-là dans un but, c'est pour nous mentionner en même temps qu'on ne doit pas ressembler aux kuffars et ça comprend aussi les munafiqin, qu'on ne doit pas leur ressembler non plus. Naam. Ensuite, maintenant il passe à d'autres versets qui sont dans Surat At-Tawbah également. Et le verset qu'il va expliquer maintenant, ou qu'il va commencer à expliquer, c'est le verset 69 dans Surat At-Tawbah. Il dit: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Donc ce verset-là, il est traduit de cette façon: il en fut de même de ceux qui vous ont précédés. Ils étaient plus forts que vous, plus riches et avaient plus d'enfants. Ils jouirent de leur lot en ce bas monde, c'est-à-dire de leur part, qu'est-ce qu'ils ont eu dans cette vie d'ici-bas, et vous avez joui de votre part, comme ont joui vos prédécesseurs de leur part. Et vous avez discuté à tort et à travers, comme ce qu'ils avaient discuté eux aussi à tort et à travers. Ceux-là verront leurs œuvres anéanties dans ce bas monde et dans l'autre, et ceux-là sont les perdants. Ok, donc ça c'est le verset en question ici. Bon, dites-vous, comme on le sait, c'est bien entendu une traduction. Et les traductions sont toujours limitées dans leur interprétation, dans leur... Parce qu'en fait, comme on le sait, il n'y a pas de traduction du Coran. En fait, c'est la traduction de l'interprétation du Coran. Et à moins que ce soit plusieurs volumes, comme les livres de tafsir en arabe, qui sont traduits, on ne peut pas donner toutes les interprétations dans une seule traduction. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est comme si, quand on lit un verset qui est traduit, ou le sens des versets qui est traduit en français, c'est comme si on prenait une image dans un point précis d'une des significations de ce que peut vouloir dire ce verset-là. Mais ce n'est pas tout ce que le verset peut vouloir dire. Hein? Et ce n'est pas toute la compréhension qu'on peut tirer ou extraire de ce verset-là, mais c'est juste une partie de ce que ce verset-là peut vouloir dire que le traducteur a traduit. Et donc, c'est comme si c'est très, très limité qu'est-ce qu'on peut prendre d'une traduction des sens du Coran. Et c'est pour ça que quand je fais la traduction, je mentionne, comme je traduis qu'est-ce que le Cheikh Ibn Taymiyyah a dit, puis qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan a expliqué. Mais quand il fait, lui, l'interprétation de ce verset-là, il ramène beaucoup plus d'explications que qu'est-ce qu'on peut trouver dans la traduction française des sens des versets du Coran. C'est pour ça que, des fois, quand vous allez voir l'explication de Ibn Taymiyyah, il mentionne parfois plusieurs significations pour un seul mot, ou pour une seule expression, ou pour un seul verset. Vous voyez que c'est beaucoup plus large que qu'est-ce qu'on peut s'imaginer. Donc, vous allez voir des exemples de ça ici. Il dit « وَهَدِي الْمُشَابَهَا فِي هَؤُلَاءِ بِإِزَاءِ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَوْلِهِ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ تُنَافِي مُشَابَهَةَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قال سبحانه كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. Donc il explique que la ressemblance c'est entre la description des croyants puis la description de ceux qui étaient avant vous. Hein, c'est pour montrer l'opposition entre les deux. Entre l'opposition entre la description qu'Allah a fait des croyants, puis la description qu'il a fait des mécréants. Et il a décrit les croyants en disant qu'ils obéissent à Allah et à son messager dans le verset 71, dans Surat At-Tawba, les versets qui suivent. Hein, le verset qui suit par la suite. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable et interdisent le blâmable jusqu'à la fin du verset. Mais dans le verset 69 qui vient avant, il y a la description de ceux qui sont venus avant, c'est-à-dire parmi les peuples qui ont mécru avant, et comment ils ont été décrits. Donc, le cheikh il récite ou il cite le verset 69 et après il dit فَالْخِطَابُ فِي قَوْلِهِ أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً قَوْلُهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ إِنْ كَانَ لِلْمُنَافِقِينَ كَانَ مِنْ بَابْ خِطَابِ التَّلْوِينَ وَالْإِلْتِفَاتِ وَهَذَا انْتِقَالٌ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الْحُضُورِ كما في قوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى الغيبة في قوله أولئك حبطت أعمالهم كما في قوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها وقوله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فإن الضمير في قوله أولئك حبطت أعمالهم الأظهر أنه عائد إلى المستمتعين الخائضين من هذه الأمة كقوله فيما بعد ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم وإن كان الخطاب لمجموع الأمة المبعوث إليها فلا يكون الالتفات إلا في الموضع الثاني أما قوله فاستمتعوا بخلاقهم ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله فاستمتعوا بخلاقهم يعني قال بدينهم ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وروي عن ابن عباس أي بنصيبهم من الآخرة في الدنيا قال آخرون بنصيبهم من الدنيا وقال أهل اللغة الخلاق هو النصيب والحظ كأنه ما خلق للإنسان أي ما قدر له كما يقال القسم أو القسم لما قسم له والنصيب لما نصب له أي ثبت ومنه قوله وما له في الآخرة من خلاق أي نصيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة. Donc, je vais juste lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan de tout ce qu'on a lu ici pour résumer ça. قوله تعالى فاستمتعوا بخلاقهم الخلاق ذكر فيه الشيخ معنيين قيل معناه الدين وقيل معناه النصيب كما في قوله تعالى ما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب وكلا المعنيين حق فإن الأولين من الكفار والمنافقين استمتعوا بدينهم أو بنصيبهم من هذه الدنيا فاستغلوا الدين لمصالحهم فأهل النفاق أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر مصلحة لهم ليستمتعوا به في الدنيا ويسلموا من القتل والتشريد لأنهم لو صرحوا بكفرهم لنالهم ما نال الكفار الأصليين من المعاملة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له أي نصيب. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici, Cheikh Al-Islam? C'est qu'il mentionne le verset dans lequel il dit, qu'est-ce qu'on a traduit tout à l'heure, qu'il en fut de même que ceux qui vous ont précédé, ceux qui étaient là avant vous, ils étaient plus forts que vous et plus riches et avaient plus d'enfants. Et ils jouaient de leur lot. Le mot ici qui est employé pour dire lot, c'est le mot en arabe bikhalaqihim. فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ. Et le cheikh, il explique que le mot « khalaq » peut avoir deux significations. Il peut signifier la religion et il peut signifier la partie ou ta portion de la dunya ou ta part de la dunya, al-nasib. Et donc, il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans plusieurs versets dans le Coran, وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Ok, c'est-à-dire et dans l'au-delà il n'aura aucune part. Ça peut vouloir dire ça, et ça peut vouloir dire ad-din aussi. Et il dit dans le verset, les deux significations sont vraies, parce que ceux qui nous ont précédés, les premiers parmi les kuffars et les munafiqin, ils ont joui de leur religion ou ils ont joui de leur part de la dunya, et ils ont utilisé leur religion pour obtenir ce qu'ils voulaient des intérêts de la dunya qu'ils voulaient. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, ils n'utilisaient pas la religion pour servir Allah. Ils utilisaient la religion pour servir leurs propres intérêts, leurs intérêts personnels. Et c'est ça l'attitude des munafiqines, les gens du nifaq. Le cheikh, il dit, ils montrent qu'ils ont la foi, mais ils cachent leur mécréance pour des intérêts de la dunya. Parce que, donc, ils jouissent de la religion pour obtenir de la dunya, pour être épargnés d'être tués ou d'être expulsés ou exilés. Parce que s'ils avaient montré ou exprimé ouvertement leur mécréance, eh bien, ils auraient reçu le même traitement que les kuffars ont reçu. Et donc, il donne comme exemple la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que celui qui porte de la soie, ses vêtements de soie, eh bien, celui qui les porte, ces vêtements-là, n'aura aucune part dans l'au-delà. Et donc, c'est un exemple de la signification la khalaq, c'est-à-dire aucune part. Et il dit, là il continue l'explication, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, وَالْآيَةُ تَعُمُّ مَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَا جَمِيعُهُمْ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ قَالْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَتِلْكَ الْقُوَّةَ الَّتِي كَانَتْ فِيهِمْ كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا لِلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَذَلِكَ أَمْوَالِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ وَتِلْكَ الْقُوَّةُ وَالْأَمْوَالُ وَالْأَوْلَادُ هُوَ الْخَلَاقُ. Donc il dit, le verset, il englobe toutes les différentes significations que les ulama ont mentionnées. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 69 qu'on a lu tout à l'heure, ils avaient plus de, c'est-à-dire ceux qui vous ont précédé parmi les gens, parmi les hommes, ils avaient plus de force que vous, plus de biens, plus de richesses et plus d'enfants. Et donc cette force qu'ils avaient, avec cette force, ils étaient capables de travailler pour la dunya et pour l'au-delà. De même qu'avec la richesse qu'ils avaient et les enfants qu'ils avaient. Donc, ce qu'ils avaient comme force et comme richesse et comme enfant, ça c'était hein, la part qu'ils avaient, hein, leur part ou leur portion. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit « Ya'ni, al-aya ta'ummul qawlain, jami'an, fahman min al-ikhtilaf, fahuma min al-ikhtilaf al-tanawu, fi anna al-kuffar al-munafiqin al-awwalin, istamta'u bidinihim, wa binasibihim min hadhihi al-dunya. فهؤلاء المنافقون المتأخرون مثلهم استمتعوا بخلاقهم أي نصيبهم ودينهم من هذه الدنيا. Donc c'est comme si le cheikh il dit le verset en question comprend les deux, il comprend les deux significations pour le terme khalaq, que c'est ils ont profité de leur portion de la dunya, qu'est-ce qu'ils ont reçu de la dunya, la force, les enfants, les richesses, et ils ont profité de leur religion aussi, hein, et il dit ça c'est une divergence, comme Ibn Taymiyyah l'explique qu'il y a deux formes de divergence dans la religion, ikhtilaf al-tanawwu' ou ikhtilaf al-tadad, et ça il va en parler après, c'est-à-dire que il y a des divergences dans lequel, c'est-à-dire, c'est des divergences de façon de faire les choses. Et cette divergence-là, c'est que pour dire que toutes les différentes explications ou les différentes options sont permises et sont égales. Tu as le choix de faire une chose ou l'autre, ou de prendre une signification ou l'autre, parce que les deux ont un sens qui est vrai. Donc, si tu interprètes le verset en disant que « khalaq » ça veut dire « nasib », c'est correct. Parce que ça a une signification qui est vraie, ou que tu le prends parce que tu dis le terme khalaq ça veut dire ad-din, la religion, et ça aussi c'est un sens qui est vrai. Donc ça c'est irtilaf tanawwu'. Et l'autre forme de irtilaf, de divergence, c'est irtilaf at-tadad. Et irtilaf at-tadad, ça veut dire que là il y a une contradiction entre les deux. Donc une est en opposition et en contradiction avec l'autre, là dans ce cas-là il y a un problème. Parce que deux choses peuvent pas être vrais en même temps, puis s'opposer ou se contredire. D'accord? Donc, il faut distinguer entre ces deux formes de divergence-là. Et ici, il dit que ça rentre dans l'irtilaf, ou la divergence qu'on appelle irtilaf at-tanawwu. C'est-à-dire que les koufars et les munafiqines, les premiers koufars, les premiers munafiqines qui sont venus avant, ils ont joui de leur religion, et ils ont joui également de ce qu'ils avaient comme portion dans la dunya. Parce que ces munafiqins et les munafiqins qui sont venus après, c'est-à-dire après ceux qui sont venus après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ces munafiqins-là sont exactement comme ces koufars et ces munafiqins qui nous ont précédés, hein, qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est-à-dire que eux aussi avaient joui et avaient profité de leur khalaq, c'est-à-dire de leur portion de la dunya et de leur religion dans cette dunya, hein? Et il dit ensuite Cheikh Al-Fawzan wa qawluhu fa innahu subhanahu wa ta'ala qala kanu ashadda minkum fa ad-dunya hiya nasibun liman sha'a Allahu min 'ibadihi fa min an-nasi wa hum al-muwaffaqun man ista'malu ma a'tahum Allahu fi hadhihi ad-dunya fi ad-dunya min asbab al-quwwati min malin wa waladin wa jahin fi ta'atillah فكان زادا لهم إلى الآخرة ومن الناس من استمتع به في هذه الدنيا ولم يتفطن لآخرته وهم المنافقون والكافرون الذين انشغلوا بالملذات والمشتهيات وتركوا العمل ليوم الحساب فالاستمتاع على قسمين استمتاع حسن واستمتاع سيء والاستمتاع الحسن هو أن يستعين العبد بما أعطاه الله على طاعته والاستمتاع السيء هو الذي يستمتع به في دنياه في المعاصي وينسى آخرته. Donc le cheikh il explique que la suite de ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit avant vous il y avait des gens, des koufars qui sont venus qui étaient plus forts que vous, qui avaient plus d'argent que vous, plus de richesses et plus d'enfants. Et il dit, donc, la dunya, c'est une portion que Allah donne à qui il veut parmi ses serviteurs. Et serviteur, c'est un terme qui implique parmi ses créatures, parmi les hommes. Parce que tous les hommes sont des serviteurs d'Allah, qu'ils soient croyants ou non croyants. Sauf que les croyants, ils servent Allah volontairement, et les kuffars servent Allah involontairement, parce qu'ils sont tous soumis à Allah, qu'ils le veulent ou non. On est tous des serviteurs d'Allah, qu'on le veuille ou non. Mais c'est un terme qui désigne en fait les êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux êtres humains, à chacun leur portion. Parmi les hommes, il y en a qui ont eu le succès. Allah leur a donné le tawfiq. Ils ont utilisé ce que Allah leur a donné dans la dunya comme un moyen pour l'obéissance d'Allah. La force, la richesse, les enfants, le statut, la position qu'ils ont, ils l'utilisent dans l'obéissance d'Allah. Et ça, c'est une provision pour eux qui les aide à obtenir l'au-delà et à avoir une part dans l'au-delà. Parmi les hommes, il y en a qui ont joui dans la dunya de qu'est-ce que Allah leur a donné et qui n'ont pas porté d'attention ou n'ont pas réfléchi à leur au-delà. Ils n'ont pas pensé à leur au-delà. Et ce sont les hypocrites et les kuffars qui se sont laissés distraire par les plaisirs et par les désirs de la vie d'ici-bas et qui ont abandonné l'action, le travail pour le jour de la résurrection et le jour du jugement. Donc, le cheikh, il dit que la jouissance des biens d'ici-bas, il est de deux catégories. La jouissance qui est bonne et la jouissance qui est mauvaise. La jouissance des biens qui est bonne, c'est que tu utilises ce que Allah t'a donné pour l'obéissance d'Allah. Donc ça, c'est une jouissance des biens qui est bonne. Et il y a une jouissance qui est mauvaise. Et cette jouissance, hein, c'est le fait que tu utilises ce que Allah t'a donné dans la dunya pour la désobéissance et qui t'amène à oublier ton au-delà. Donc ça, c'est une jouissance qui est mauvaise. Après, le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit فَاسْتَمْتَعُوا بِقُوَّتِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ فِي الدُّنْيَا ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة والأموال هي دينهم وتلك الأعمال لو أرادوا بها الله والدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة عليها فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العجلة بها فدخل في هذا من لم يعمل إلا للدنيا سواء كان من جنس العمل من العبادات أو غيرها. Après, le cheikh Al-Fawzan, il explique, on va lire son explication. Il dit أي أن هؤلاء القوم استخدموا أموالهم وأولادهم للدنيا فنالوها ولكن الدنيا فانية وأما المؤمنون فإنهم نظروا إلى الآخرة فاستعانوا بقوتهم وما أعطاهم الله من المال فاستعانوا به على الأعمال الصالحة فجعلوا الدنيا مطية للآخرة فكسبوا الدنيا والآخرة. Donc le cheikh il explique qu'est-ce que Ibn Taymiyyah veut dire dans cette parole. Il dit, c'est-à-dire que ces gens, les gens qui nous ont précédés, ils avaient utilisé leur richesse, leurs enfants pour la dunya, leur force, leur richesse, leur dunya, leurs enfants pour la dunya, et ils ont obtenu la dunya, ils l'ont obtenu. Comme les kuffars aujourd'hui, ceux qui travaillent fort pour avoir la dunya, ils obtiennent la dunya, ils ont tout ce qu'ils désirent parce qu'ils travaillent pour l'obtenir et ils l'ont. Mais cette dunya, elle est éphémère. Cette dunya, elle est éphémère. C'est-à-dire que tu l'as aujourd'hui, puis demain tu meurs, puis tu ne l'amènes pas avec toi. Donc ça ne dure pas. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui va durer. Tandis que, même que quand tu meurs, c'est tes héritiers qui en profitent. C'est même plus toi. Hein? C'est d'autres personnes. Tu ne vas pas l'amener avec toi dans la tombe. Tandis que les croyants, eux, ils n'ont pas juste travaillé pour la vie d'ici-bas, utiliser ce que Allah leur a donné uniquement pour avoir la vie d'ici-bas. Non. Ils ont pensé à leur au-delà et ils ont utilisé ce qu'ils avaient comme force et ce que Allah leur a donné comme richesse, ils l'ont utilisé pour s'aider à faire des bonnes œuvres. Et donc, ils ont fait de leur dunya comme un champ pour cultiver leur au-delà. Et donc, ils ont obtenu et la dunya et l'au-delà ensemble, les deux. Il dit « وَقَوْلُهُ فَتُمَتِّعُهُمْ بِهَا فَتَمَتُّعُهُمْ بِهَا أَخْذُ حُذُوذِهِمُ الْعَاجِلَ بِهَا » أي أن المقصود بالتمتع المذموم بها أن يأخذوا منها عاجل الشهوات والملذات وهذا مؤقت لأن الدنيا لا تدوم ويدخل في هذا يعني في أخذ الحظوظ العاجلة من لم يعمل إلا لدنياه وترك آخرته سواء كان جنس العمل في العبادات أو أي كالمنافقين الذين إنما يؤدون العبادات لا لأجل الثواب وإنما ليأكلوا بعملهم في الدنيا ولهذا قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إنه عبد لهذا المال إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. Donc le cheikh il explique que la jouissance, leur jouissance de ces biens, c'est en réalité le fait pour eux de prendre leur part de ce qu'ils ont eu de cette vie d'ici-bas, qui est une vie éphémère. Hein? Donc le cheikh il dit c'est-à-dire que leur jouissance c'est une jouissance blâmable parce qu'ils ont pris ce que Allah leur a donné comme désir et comme plaisir éphémère dans cette vie d'ici-bas et ils l'ont pris uniquement pour la dunya et cette dunya elle n'est pas éternelle, elle ne va pas durer et donc qu'est-ce qui rentre dans ça, le fait de prendre cette portion éphémère de la vie, qu'est-ce qui rentre là-dedans aussi, c'est la personne qui ne travaille, qui ne fait des choses que pour la dunya et qui abandonne complètement son au-delà. Peu importe que ce soit parmi les actions des adorations ou bien les actions de la dunya. Comme par exemple le munafiq, l'hypocrite. Il fait des actes d'adoration, mais il ne les fait pas pour une récompense dans l'au-delà. Il fait les actes d'adoration juste pour pouvoir manger par les actions qu'il fait dans la dunya. C'est tout. Juste pour la dunya, il fait des actes d'adoration, mais pour la dunya seulement. Pas pour son au-delà. Et il dit, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, celui qui veut la vie d'ici-bas, ainsi que ses parures, et ses beautés, sa beauté, nous leur donnerons, yani, la rétribution de ce qu'ils ont œuvré dans cette vie d'ici-bas, on va leur donner une récompense pour les actions qu'ils ont faites dans cette vie d'ici-bas, et ils ne seront point lésés dans la vie d'ici-bas. C'est-à-dire que les gens qui font des actes d'adoration pour la dunya, et dans la dunya, mais pas pour Allah, juste pour avoir des choses de la dunya, Allah va les récompenser pour le bien qu'ils font dans cette dunya. Et ils vont avoir une récompense dans cette dunya. Ils ne vont pas être lésés. Mais ce sont ceux-là qui n'auront dans l'au-delà aucune part, excepté l'enfer. Et tout ce qu'ils auront œuvré dans l'au-delà sera complètement vain et détruit. Ils n'auront aucune récompense. Et tout ce qu'ils auront fait sera annulé et sans aucune valeur. وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ حَبِطَ مَا صَنَعُوا C'est-à-dire Allah va annuler complètement la valeur de leurs actions et tout ce qu'ils ont œuvré et en y sera faux. Le cheikh il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, ça c'était le verset 15 et 16 dans sourate Hud. Après ce verset, le cheikh il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit que périsse l'adorateur du dinar et du dirham et de al-qatifa. C'est-à-dire que celui qui adore l'argent, les dinars c'est de l'or, et les dirhams c'est de l'argent, et al-qatifa c'est des vêtements, des beaux vêtements, hein, des choses de l'apparence et tout. Donc celui qui vit pour ça seulement et qui aime ces choses-là au point d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une invocation pour qu'il périsse, hein, une invocation contre lui, parce que cette personne-là, elle est une personne misérable, hein, une personne misérable, parce qu'elle ne vit que pour la dunya, que pour les belles choses, que pour l'argent, que pour la richesse. Donc il devient un esclave de ça, hein, et il dit comme description de cette personne, si on lui donne, il est satisfait, et si on ne lui en donne pas, d'ici il ne le reçoit pas, il se fâche, hein, il devient fâché, il n'est pas satisfait. Ensuite, le cheikh, il continue l'explication du verset. Il dit « Thumma qala subhanahu, fastamta'tum bi khalaqikum kama stamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladhi khadu wa fil ladhi wajhan ahsanuhuma annaha sifatul masdar ay kal khawd alladhi khaduhu fayakunu al'aidu mahzufan كما في قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وهو كثير فاش في اللغة والثاني أنه صفة الفاعل أي كالفريق أو الصنف أو الجيل الذي خاضوه و وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض لأن فساد الدين إنما إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق والأول هو البدع ونحوها والثاني هو فسق الأعمال ونحوها والأول من جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات. سبحان الله. شيخ الإسلام ابن تيمية. Il y a une façon de classifier les choses et de diviser les choses. يعني c'est là que tu vois la différence entre les savants et les gens qui sont pas savants et les gens qui n'ont pas de compréhension de la religion. Le cheikh il explique le verset quand Allah سبحانه وتعالى dit dans le verset 69 encore. فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ Ils jouirent de leur portion, de leur part en ce monde, et vous avez joui de votre portion. Ou bien ça peut être aussi, ils jouaient de leur religion, et vous avez joui de votre religion, comme on jouit ceux, yani, vos prédécesseurs, c'est-à-dire ceux qui étaient avant vous, de leur religion, de leur portion de leur part de la vie d'ici-bas. Et vous avez discuté à tort, al-khawd, c'est-à-dire d'argumenter, de patauger dans des discussions futiles et fausses, hein, pour argumenter à tort et à travers, et parler de la religion à tort et à travers, comme ils avaient discuté. وَخُدْتُمْ كَالَّذِي خَادُوا Donc le cheikh il dit, وَخُدْتُمْ كَالَّذِي خَادُوا الَّذِي Ici, il explique maintenant la signification de Al-Ladhi. Il dit il y a deux significations possibles pour Al-Ladhi. Soit que ça veut dire la description du Masdar, c'est-à-dire de Al-Khawd. La description de la façon dont ils ont discuté à tort et à travers. C'est-à-dire vous avez discuté à tort et à travers comme eux avaient discuté à tort et à travers. Et on voit que c'est cette description-là. C'est cette signification-là que le traducteur a utilisée pour traduire le verset dans la traduction qu'on a de la traduction de Al-Malik Fahad. Et il dit, ça c'est la meilleure des deux. La meilleure des deux significations. Donc, alhamdoulilah. Mais il y a une autre signification qui veut dire la description de celui qui fait l'action. C'est-à-dire que vous avez pataugé comme ceux qui avaient pataugé, c'est-à-dire le groupe ou les gens qui avaient pataugé dans leur discussion et dans leur discussion à tort et à travers. Donc c'est comme deux façons de le comprendre. Soit que c'est la description de l'action elle-même, de discuter à tort et à travers, ou de la description de celui qui a fait l'action, c'est-à-dire qui a discuté à tort et à travers. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a réuni entre deux choses dans ce verset-là. La discussion, il a réuni entre la jouissance avec la portion, ou bien avec la religion, de jouer de la religion et de la portion de la dunya, et le fait de discuter à tort et à travers. Deux choses qu'il a réunies ensemble, deux caractéristiques négatives et mauvaises. De jouir de la vie d'ici-bas d'une manière qui est mauvaise, et d'argumenter, de patauger dans des discussions qui sont à tort et à travers au sujet de la religion. Et il dit que la corruption de la religion, ça vient d'une de ces deux choses-là, ou des deux ensemble. C'est soit que la personne, elle tombe dans des fausses croyances, et qu'elle parle, elle mentionne, ou elle parle de fausses croyances, hein, ou qu'elle tombe dans des actions qui sont en contradiction avec la vraie croyance. Dans le premier cas, c'est les bid'ah et les choses qui sont de cette catégorie-là, c'est-à-dire les innovations dans la religion. Hein, parce que tu inventes des choses dans la religion, tu inventes des fausses croyances, tu inventes des fausses croyances et des fausses pratiques dans la religion. Ou bien la deuxième chose, hein, c'est-à-dire que tu fais des actions de perversité ou des péchés, des choses de ce genre qui viennent corrompre ta religion aussi. Donc, il dit, la première catégorie, c'est du point de vue des shubuhat, c'est-à-dire les ambiguïtés qui sont créées dans la religion ou qui sont introduites dans la tête des gens dans leur religion pour leur donner des doutes et pour leur donner des ambiguïtés et des innovations. Et la deuxième exemple, c'est du point de vue des shahawat, c'est-à-dire des plaisirs, des désirs illicites, hein, que les gens sont tentés par ces choses-là, puis ils tombent dans les péchés à cause de ça. Donc, Cheikh al-Islam, il explique ça, et Cheikh al-Fawzan, maintenant, il clarifie ça avec des termes plus simples. Il dit, « قَوْلُهُ وَخُدْتُمْ كَالَّذِي خَادُوا فِي قَوْلِهِ كَالَّذِي خَادُوا وَجْهَانُ أَنَّهُ مَصْدَرْ أَوْ إِسْمُ مَوْصُولٌ أي خوضاً خدتم خوضاً كالذي خاضوا فيكون مصدراً أو أن الذي بمعنى الذين أي خدتم كالذين خاضوا من قبلكم والخوض قسمان خوض في العقيدة وخوض في الشهوات والخوض في العقيدة يسمى الشبهات والخوض في الملذات والمشتهيات يسمى الشهوات فالذين من قبلنا خاضوا خوضين خاضوا في عقيدتهم فصار منهم الكفار والفساق والمبتدعة وخاضوا أيضا في أموالهم وشهواتهم فصاروا فساقا فسقا عمليا لأن الفسق على قسمين فسق اعتقادي وفسق عملي. Donc le cheikh explique que Ibn Taymiyyah, il nous mentionne que dans ce verset-là, quand il dit que vous avez discuté à tort et à travers, comme ceux qui avaient discuté à tort et à travers avant vous, ça peut vouloir dire que « allazi » dans ce verset-là, c'est-à-dire vous avez disputé comme ceux, ça peut vouloir dire comme ceux, ou vous avez disputé ou argumenté ou discuté à tort et à travers, de la même façon, à la façon de ceux qui avaient discuté avant vous. Donc ça veut dire, soit ça veut dire comme ceux, ou à la façon de. C'est ça les deux sens. Dans le premier, c'est le masdar, c'est un masdar, et dans le deuxième, c'est ismousul, c'est dans le sens de ceux, hein, qui ont discuté, c'est-à-dire comme si vous avez ressemblé à eux, ou vous avez discuté d'une manière qui ressemble à la façon dont eux avaient discuté à tort et à travers. Et il dit, Al-Khawd, elle est de deux catégories. La discussion peut être dans la aqida, et ça peut être aussi dans les plaisirs et les désirs illicites. Et il dit, la discussion, le fait de patauger dans la aqida, de discuter à tort et à travers dans la aqida, ça s'appelle les shubuhat, c'est-à-dire les ambiguïtés qui créent des doutes dans la croyance et dans la religion. ou bien ça peut être dans les plaisirs et les désirs illicites, et dans ce cas-là, on les appelle les shahawat, c'est-à-dire les passions, les désirs, hein, les choses comme ça. Et ça, c'est ce qui amène les hommes à tomber dans le péché, comme le zina et les autres choses de ce genre. Donc il dit wal khawdu fil aqida, donc on l'a dit, et après il dit falladina min qablina, donc ceux qui nous ont précédés, hein, ils ont pataugé et discuté à tort et à travers dans ces deux choses-là. Dans la aqida, ceux qui ont pataugé et qui ont argumenté dans la aqida et discuté à tort et à travers là-dedans, ils sont devenus soit des koufars, sont sortis de l'islam, ou sont devenus des pêcheurs, ou sont devenus des mubtadi'a. Et ceux qui ont argumenté et pataugé à tort et à travers dans les richesses et dans les désirs et les plaisirs illicites, ceux-là sont devenus des pêcheurs dans leurs actions. Et il dit que la perversité et le péché est de deux catégories. Ça peut être un péché au niveau de la croyance, et de la aqida, ou des actions. Et si c'est un fisq et atiqadi, donc ça peut faire sortir de l'islam, tandis que si c'est un fisq amali dans les actions, dans ce cas-là c'est un péché, ça peut faire partie des grands péchés, et ça c'est quelque chose qui fait diminuer la foi, mais qui ne fait pas nécessairement sortir de l'islam. Na'am. Et puis il y a des formes de... En tout cas, on ne va pas entrer dans les détails. Le cheikh, il n'a pas détaillé, donc on ne va pas détailler plus que le cheikh. Et le cheikh, il dit ici, « وَالْخَوْضُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْعَقِيدَةِ كَالَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي مَسَائِلِ الْإِيمَانِ كَالْمُعْتَزِلَ وَالْجَهْمِيَ وَالْأَشَاعِرَ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ خَاضُوا فِي أُمُورِ الْعَقِيدَةِ كَمَا وَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتَسْلِمُوا وَيُسَلِّمُوا لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أمور العقيدة دون أن يطلقوا العنان لعقولهم متجاوزين النصوص من الكتاب والسنة فتعبوا وأتعبوا غيرهم دون أن يصلوا إلى أي شيء ولو قبلوا ما جاء في الكتاب والسنة كما فعل أهل السنة والجماعة لوفروا على أنفسهم الجهد والتعب فهذا خوض الشبهات فهذا خوض الشهوات والعياذ بالله والخوض الآخر هو خوض الشهوات. Je pense que le cheikh s'est trompé ici. Ou bien c'est la personne qui a transcrit les paroles du cheikh. Ici c'était ash-shubuhat. Ash-shubuhat. والعياذ بالله والخوض الآخر هو خوض الشهوات أي فعل المعاصي والآثام المحرمة أي أنهم أعطوا نفوسهم ما تشتهي من الملاهي من ملاهي الحياة المحرمة فهذا خوض عملي ليس اعتقاديا وهو أخف وصاحبه يسمى فاسقا فسقا عمليا ينقص به إيمانه. Donc le cheikh il dit, le fait de patauger dans les discussions à tort et à travers, dans l'aqida, c'est soit dans l'aqida ou soit dans les actions. Et dans l'aqida, c'est comme l'exemple des questions qui ont rapport avec la foi. Ceux qui ont pataugé dans les discussions à tort et à travers dans la foi, comme les Mu'tazila, les Jahmiya et les Asha'ira, et d'autres également. Donc eux, ils sont rentrés dans des discussions à tort et à travers au sujet de la aqida, au sujet de la croyance, alors qu'il était obligatoire pour eux plutôt de se soumettre, alors qu'il était plutôt obligatoire pour eux de se soumettre à ce qui a été amené de la part d'Allah et de son messager dans les questions de aqida, et non pas de rentrer dans ces questions de la croyance et de la foi en utilisant leur logique ou leur raison, en dépassant les textes du Coran et de la Sunna. Parce qu'en agissant ainsi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fatigués eux-mêmes et ils ont fatigué les gens. Tandis que s'ils s'étaient soumis et qu'ils avaient accepté ce qui était rapporté dans le Coran et dans la Sunna, comme l'ont fait les gens de la Sunna et de la Jama'a, eh bien, ce serait épargné à eux-mêmes la fatigue et l'effort inutile. Et le cheikh, il dit, et ça, c'est al-khawd, le fait de patauger dans les discussions à tort et à travers, qui sont les shubuhat, c'est-à-dire les ambiguïtés et les doutes qui, les ambiguïtés qui créent des doutes dans la croyance. Ici, il avait écrit, c'était écrit dans le texte ash-shahawat, mais c'est évident que c'est contraire à la, au sens, parce que c'est, il parle pas des shahawat ici. Il dit wal'iyadu billah, que Allah nous en préserve. Donc, on va juste terminer le chapitre ici, puis on va s'arrêter, ok, si ça vous dérange pas. En fait, on va traduire cette page-là, puis cette page-là, puis après on va s'arrêter, inshallah, pour le cours d'aujourd'hui. Donc, il dit, wal-khawdul akhar, et l'autre forme de façon de patauger dans les, et de discuter à tort et à travers, c'est dans les shahawat, c'est-à-dire dans les passions et dans les désirs illicites et interdits. C'est-à-dire le fait de faire des péchés et des choses interdites par l'islam. C'est-à-dire que ils se sont donnés, ils ont laissé leur âme avoir tout ce qu'elle désirait comme plaisir interdit dans la vie d'ici-bas. Et ça, c'est une forme de khawd qui est dans les actions. C'est pas dans la croyance. Et donc, c'est moindre. Et les ulama, ils disent souvent que le shaitan, quand il essaie de t'égarer, il essaie de avec ces deux moyens-là. Avec les shubuhat, puis avec les shahawat. S'il peut t'égarer avec les shubuhat, mettre des doutes dans ta foi en Allah, mettre des doutes dans ta aqidah, et te faire égarer dans le kufr, dans le shirk ou dans les bid'ah, c'est ça ce qu'il essaie en premier, parce qu'il veut t'égarer de la bonne voie et de l'islam. S'il n'arrive pas, et qu'il voit que toi tu es une personne qui est plus, par exemple, c'est-à-dire penchée vers les plaisirs de la dunya, là il va te tenter vers les péchés et les plaisirs illicites pour te faire tomber dans les péchés. Ça, c'est moins grave que d'avoir des doutes dans ta foi. C'est moins grave de faire des péchés que d'avoir des doutes dans la aqidah, mais c'est quand même dangereux, parce que ça fait diminuer ta foi, quand même. Et petit à petit, ça risque de te faire éloigner de plus en plus de la religion, parce que tu tombes dans les péchés, dans les désobéissances. Hein? Après, le cheikh, il explique, il dit, « وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفْ يَقُولُونَ اِحْذَرُوا مِنَ النَّاسِ صِنْفَيْنَ صَحِبُ هَوَا قَدْ قد فتنه هواه وصاحب دنيا أعمته دنياه وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه وهذا يشبه الآخر يعني يشبه الضالين الذين يعملون. Donc le cheikh, il dit que les salafs, il disait, prenez garde à deux sortes de personnes, deux catégories de personnes. La personne qui suit sa passion et qui a été éprouvée par sa passion. Et la personne qui, une personne qui aime la dunya et qui a été aveuglée par son amour de la vie d'ici-bas. Il dit, et il disait également, c'est-à-dire les salafs, prenez garde à la fitna du savant pervers, hein, et de l'adorateur ignorant. Parce que leur fitna, leur tentation de ces deux-là, elle est une fitna pour tous les gens qui sont éprouvés par une tentation quelconque. Hein? C'est toujours par une de ces deux catégories de personnes-là. La personne qui a de la science mais qui l'applique pas, ou la personne qui est adorateur mais qui est ignorant. Il aime l'adoration, il aime la religion, mais il est jahil. Et ils disent que c'est exactement l'exemple de ceux que Allah a décrit dans Sourate Al-Fatiha. Ceux sur qui la colère d'Allah est tombée, c'est-à-dire ceux qui ont encouru la colère d'Allah, al-mardoub alayhim. Ce sont ceux qui ont la science, qui connaissent la vérité, mais qui ne la suivent pas. Et ça, donc cette catégorie-là, c'est comme le savant pervers. Et l'autre catégorie de l'adorateur ignorant, c'est ceux qui ressemblent au dalin. Comme on dit dans le verset, dans Surat Al-Fatiha, « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » الضالون, les égarés, ce sont ceux qui agissent, c'est-à-dire ils pratiquent la religion, ils aiment la religion, mais ils la pratiquent sans connaissance. À cause de ça, ils s'égarent. Hein? Et Cheikh Al-Fawzan, il explique cette partie-là, il dit « كان السلف يقولون احذروا صنفين صاحب الهوى الذي يخوض في العقيدة وصاحب الدنيا الذي انغمس في شهواته وملذاته. Donc il dit que ça signifie, prenez garde à deux catégories, c'est-à-dire prenez garde à la personne qui suit sa passion et qui patauge dans les discussions à tort et à travers dans la aqida, et la personne qui aime trop la dunya et qui se noie dans, ou qui s'immerge et qui rentre dans ses désirs et dans ses passions. Donc ces deux-là sont dangereux, et faire attention à ces deux catégories-là. Et il dit ensuite, كما كانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر أي أن فتنة العابد الجاهل هي فتنة الضالين لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال وفي مقدمتهم النصارى كما سبق وفتنة العالم الفاجر هي فتنة المغضوب عليهم وهم الذين أعطاهم الله العلم فلم يعملوا به بل باعوا بثمن بخس باعوه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين وهؤلاء هم اليهود وكل من سار على نهجهم من علماء الضلال الذين لم يبينوا للناس الحق بل كتموه لأجل مصالحهم. Donc le cheikh il dit ensuite, quand Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, quand il dit prenez garde à la fitna du savant pervers et de l'adorateur ignorant, c'est-à-dire que l'adorateur ignorant, c'est la fitna des égarés. Parce qu'ils adorent Allah avec ignorance et égarement. Et avant eux, à la tête de ceux-là, il y a les chrétiens, comme on a mentionné précédemment dans le livre. Et il y a la fitna de l'adorateur, du savant pervers. Et il dit que c'est la fitna de ceux qui ont encouru la colère d'Allah sur eux. Allah leur a donné la science et ils ne l'ont pas appliqué. Même qu'ils l'ont vendu pour un petit prix, pour un vil prix. Ils ont vendu leur religion pour un vil prix. Et ils n'en avaient même pas besoin de cet argent-là. C'est comme s'ils n'avaient aucun intérêt pour cet argent, mais c'est juste qu'ils donnent pas d'importance à la vérité. Et ceux-là, ce sont les juifs et tous ceux qui sont sur la même voie qu'eux, parmi les savants de l'égarement, qui ne clarifient pas la vérité pour les gens et qui la cachent pour leur intérêt. Et ça, dans cette catégorie-là, rentrent les gens de Bid'a, parmi les gens qui cachent la vérité de l'islam pour des intérêts de la dunya. Parce qu'ils veulent quelque chose de la dunya, donc ils ne vont pas dire aux gens la vérité sur l'islam. Parce que s'ils disent la vérité sur l'islam, ils ont peur que les gens vont arrêter de leur donner de l'argent ou vont pas leur donner des choses. Ils disent, mais je ne veux pas dire ça aux gens. Si je leur dis aux gens les choses vraies, ils vont arrêter de donner de l'argent à la mosquée, ils vont arrêter de nous aider financièrement. Donc on va se taire, on va rien dire, on va laisser tout le monde venir, puis tout le monde va donner, va nous aider. C'est comme une fois je suis allé dans une mosquée, je leur ai dit, il y a un cheikh qui va venir, il peut donner des conférences, est-ce que vous voudriez qu'il vienne donner des conférences dans votre mosquée? Il a dit, oui, mais à condition qu'il ne parle pas de ça, puis qu'il ne parle pas de ça, puis qu'il ne dénonce pas les sectes, et qu'il ne critique pas les gens de Bid'a ou les groupes. Parce que nous, on accepte tout le monde ici, on veut tout le monde. Donc, j'ai dit, subhanallah. Je me demande, mais comment tu veux accepter tout le monde? Il dit, ouais, ici, il y a des chiites qui viennent, il y a des sunnis, il y a des gens tout mélangés qui viennent ici. Nous, on ne veut pas qu'eux, ils ne vont plus venir. J'ai dit, comment tu dis, il y a des chiites ici qui viennent prier. Les chiites, tu sais, quand ils prient, ils envoient la malédiction d'Allah et ils insultent les sahaba, ils insultent Aïcha, radiallahu anha, ils insultent Abu Bakr et Omar, et les sahaba, ils les déclarent kuffar. Toi, tu dis, on ne veut pas, que ces gens-là viennent plus dans notre mosquée. C'est quoi cette logique? C'est-à-dire, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait sa da'wah, il cachait la vérité aux gens pour ne pas les choquer ou ne pas les déranger dans qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est contraire à la voix des prophètes. Et le cheikh dit ensuite, et on va terminer avec ça, ووصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال رحم الله عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها. يعني ووصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال رحمه الله رحمه الله عن الدنيا وما أسبره وبالماضين وما ما كان أشبهه أتدهد البدع فنهاها والدنيا فأباها. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, il y a quelqu'un parmi les ulama qui ont décrit l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et ils ont dit de l'imam Ahmad que Allah lui fasse miséricorde par rapport à la dunya. Comment il a été patient vis-à-vis de la dunya? C'est-à-dire il n'a pas laissé la dunya le tenter au point d'abandonner la vérité. Et comme il ressemblait au premier parmi les savants et les sahaba et ceux qui les ont suivis. Donc, il dit, la bid'a lui est arrivée, lui est venue, et il l'a repoussée, il l'a reniée, il l'a rejetée, et la dunya lui est venue, et il l'a refusée. Donc, il a refusé les bid'a, il a refusé, et refusé aussi la dunya. Et le cheikh, l'imam, الشيخ الفوزان يلكسبليك يلزي أي أن الإمام أحمد رحمه الله كان أشبه الناس بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين في سمته وطريقته ففي العقيدة كان وفاقا عند قولهم وقافا عند قولهم وملتزما بنهجهم وللدنيا كان مجافيا وقد امتحن في ذلك وضرب ولم يتنازل عن شيء من دينه وإنما صبر واحتسب ولم يعطهم شيئا من التنازل أبدا وعرضت عليه الدنيا أي الوظائف والمناصب لكنه أباها وأتته البدع فنفاها حين وقف في وجه المبتدعين وقوف الجبال الراسيات وهذا منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Donc Cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, était parmi les gens qui ressemblaient le plus aux compagnons du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et des tabi'in. Dans sa manière, dans son comportement, dans sa voix, dans son attitude, et dans l'aqida, ils s'arrêtaient à leurs paroles. Et ils restaient accrochés à leur voix. Et ils s'écartaient de la dunya. C'était pas quelqu'un qui courait après la dunya. Et il a été éprouvé et torturé et frappé et il n'a jamais fait de compromis dans sa religion. Mais il a été patient et il a cherché la récompense d'Allah dans sa patience et dans son endurance face à toutes ces épreuves. Hein? Quand il a été torturé par les Mu'tazila, hein, et par le Khalifa à l'époque qui était Mu'tazili, hein, pendant les trois Khulafa qui ont été un après l'autre, qui était sur la bid'a des Mu'tazila et qui imposait à tous les savants de dire que le Coran est créé et que ce n'est pas la parole d'Allah. Hein? Donc il a été éprouvé et torturé dans cette voie et il a été patient. Et on lui a présenté la dunya, on lui a offert des postes, on lui a offert des positions, il les a refusées. Et on lui a présenté les innovations et les bid'a, il les a repoussées. Et il est resté ferme devant la face des gens de bid'a et des mubtadi'in comme une montagne fermement ancrée. Et ça, c'est la méthodologie des salaf al-salih parmi les sahaba et les tabi'in, hein, et ceux qui les ont suivis. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on va expliquer ou qu'est-ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant pour aujourd'hui, et on va s'arrêter là. On continuera inshallah la suite au prochain cours inshallah. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.